Commençons. Bienvenue à une nouvelle séance sur le livre d'exercice d'un cours en miracle. Ce soir, nous allons explorer les leçons 24 et 25, deux leçons qui sont une forme de parenthèse dans l'enfilade, dans la série de leçons que nous avons faites jusqu'ici. Nous avons dernièrement parlé des pensées d'attaque. Nous faisons une petite pause, nous revenons dessus dans la leçon 26. Et entre-temps, notre guide Jésus nous fait un petit exposé des questions, des besoins, des intérêts personnels et le thème du pardon, le thème du pardon qu'il a traité un petit peu furtivement, excusez-moi. Une petite parenthèse sur l'enchaînement d'idées que nous avons traité récemment. Ce soir, nous allons partir dans une direction légèrement différente où nous allons parler de nos besoins, nos intérêts, des sujets qui vont rester avec nous encore très longtemps, puisque, comme nous allons voir, nous nous trompons beaucoup sur nos vrais besoins et nos vrais intérêts. Nous avons besoin de savoir comment nous les avons définis, d'où est-ce qu'ils viennent, puisque nos besoins et nos intérêts, nos buts déterminent une partie très importante de notre perception, de nos choix, du choix de nos projets. Donc, nous allons passer quelques minutes dessus ce soir. Nous allons aussi regarder la différence entre notre faux soi et notre véritable soi, encore un sujet très important. Et nous allons continuer à regarder les questions du pardon. Ces deux leçons, d'une façon très simple, sont très complémentaires. Dans la leçon 24, nous apprenons que nous ne connaissons pas nos vrais besoins. Et donc, le message de la leçon 25, c'est nous détournons chaque situation pour servir nos faux besoins. Mais nous pouvons apprendre sur ce mécanisme, cette façon de faire, pour identifier nos vrais besoins et surtout pour devenir très conscient de quand nous ne sommes pas en train d'utiliser la situation à bon escient pour les vrais besoins de notre chemin d'éveil, pour la reconnaissance de notre soi en Christ. Très bien. Et maintenant, la leçon 24, je ne perçois pas mon propre intérêt. Tout d'abord, quand il parle d'intérêt, on peut aussi bien lire nos besoins ou nos buts. Donc, on peut certainement les interchanger. Je trouve le titre de la leçon déjà très curieux parce que je pense que chacun pense qu'il connaît ses propres intérêts, il connaît ses besoins et il sait ce qui lui rendrait heureux et ce qui le rend heureux. Donc c'est un peu osé de la part de Jésus de dire tout de suite, tu ne sais rien de ce qui est vraiment utile et important pour toi. Et j'ai envie de vous poser cette question tout de suite. Est-ce que vous pensez, quand vous pensez à la journée que vous avez faites aujourd'hui, que vous avez accompli aujourd'hui, quand vous pensez à tout ce que vous avez fait, tous vos différents projets de bonheur pour satisfaire différents besoins que vous avez, est-ce que vous avez réfléchi si cela est vraiment dans votre propre intérêt, dans votre meilleur intérêt, si ça servit vraiment à vos buts? Est-ce que c'est en essence, c'est ce que notre guide Jésus veut qu'on fasse? C'est de regarder comment nous avons construit notre journée ou nous allons construire notre semaine et de nous poser cette question, mais quel est le but de tout cela? Pourquoi est-ce que je le fais? Nous allons explorer cette question, mais j'ai envie de juste commencer par vous poser cette question. Pensez à tout ce que vous avez fait aujourd'hui selon vos propres intérêts. Quels étaient vos propres projets de bonheur et de satisfaction? Juste réfléchissez 2 minutes à cela. Parce que cette leçon s'agit de ce sujet, de ce que vous avez fait aujourd'hui et ce que vous pensez faire demain pour satisfaire vos propres intérêts. Et la question qui veut qu'on se pose est, est-ce que c'est vraiment dans votre intérêt? Est-ce que tout cela est dans notre vrai intérêt? Est-ce que notre guide est en train de dire que non, on se trompe sur tout cela? Et si lui, il est vrai, cela pourrait aussi expliquer beaucoup de choses. Est-ce que vous avez connu ce qu'on pourrait appeler les succès éphémères? C'est-à-dire projet dans lequel vous vous êtes investi un petit peu, vous les avez accomplis, et pourtant, après, il y a pendant un certain temps, il y a un genre de petit instant d'euphorie ou de satisfaction, mais ça perd vite sa puissance dans votre esprit. Par exemple, des vacances, ça peut, on peut aussi regarder une belle vacance que vous avez faite pendant un certain temps, pendant que vous êtes en vacances, bien sûr, vous êtes bien heureuse et satisfaite. Au retour à la maison, ça semble continuer un certain temps. Mais on constate que avec les jours et avec les semaines, une vraie diminution du pouvoir de bonheur de ces vacances. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben, c'est justement le sujet ici. Jésus est en train de dire, puisque tu ne connais pas votre propre intérêt, vous allez faire, ce n'est pas forcément des erreurs de choix, mais vous allez vous servir de ces différentes situations pas forcément à bon escient, et vous allez les utiliser, en fait, notamment pour satisfaire les besoins de votre ego. Nous le faisons tous, au lieu de regarder cela sur les yeux de notre grand soi et essayer de comprendre comment est-ce que cela peut nous servir sur un autre plan. L'aspect curieux de cette affaire, c'est que nous sommes toujours tellement convaincus d'avoir raison sur la nature de nos projets pour être heureux que nous risquons de juste encore glisser ou planer sur cette leçon sans nous poser la vraie question si les choses que nous avons déjà déterminées pour nous-mêmes sont en fait adaptées à nos vrais besoins. Gardons cette question en esprit. Est-ce que la manière, est-ce que le choix de ce que j'ai décidé de faire et la manière dont j'ai décidé de le faire sont vraiment adaptés à mes vrais besoins? Commençons la lecture de la leçon. On lit dans le premier paragraphe, il n'est pas une situation qui se présente dans laquelle tu te rends compte du résultat qui te rendrait heureux. Et le mot clé ici, pour comprendre un peu le sens dans son ensemble de cette leçon, c'est le tu, dans lequel tu te rends compte du résultat qui te rendrait heureux. Parce que comme nous allons apprendre dans la prochaine leçon, nous nous sommes trompés sur la nature de ce tu, de ce toi, de ce moi, de ce soi que nous pensons être. Et si nous nous sommes trompés sur ce soi qui a déterminé ses projets et la façon dont il les a menés, il a essayé d'en profiter, alors cela pourrait expliquer pourquoi ces situations ne nous ont pas rendus, mais définitivement ou durablement heureux. Et donc j'ai une autre petite question pour vous qui peuvent nous aider, quelques petites questions pour nous qui peuvent nous aider à clarifier encore notre fonctionnement. Première petite question, qu'est-ce qui vous a rendu vraiment heureux dans le passé? C'est un peu dans la continuité de cette discussion sur les succès éphémères. Qu'est-ce qui vous a rendu vraiment heureux dans le passé? Pensez à un projet concrètement pour vous-même. Un projet qui vous a vraiment rendu heureux. Et pensez, posez-vous cette question par la suite. Pendant combien de temps est-ce que ce projet vous a rendu heureux? Posez-vous cette autre question. Qu'est-ce qui vous rendrait vraiment, vraiment heureux maintenant? Même des choses les plus inattendus. Gagner votre loto, etc. Qu'est-ce qui vous rendrait vraiment, vraiment heureux? Et posez-vous cette question encore. Très bien, mais pendant combien de temps est-ce que l'accomplissement de cette nouvelle situation, de cette nouvelle scène de vie, pourrait vous satisfaire et vous faire et vous rendre heureux? Et là, on peut commencer à ressentir le décalage entre notre façon de concevoir le bonheur, le bonheur, la satisfaction, et la manière dont Jésus veut présenter ce sujet. Parce que lui, il va nous parler, bien sûr, des trésors du cœur, des trésors de l'esprit, les points de satisfaction et de bonheur qui ne bougeront pas, qui ne diminueront pas, qui ne changeront pas. Or, toute notre attention est portée presque systématiquement sur l'extérieur, sur les changements extérieurs. Cette leçon, ce premier paragraphe, introduit le sujet du bonheur, ce qui va devenir de plus en plus important. Et il essaie de nous faire comprendre que nous ne connaissons pas encore ce qui nous rend heureux, ce que c'est le vrai bonheur pour nous. Nous continuons à chercher le bonheur, mais la façon dont nous le faisons n'écarte pas le vrai malheur. C'est parce qu'il y a une genre de mal-être ou un malheur au fond de l'esprit, qui vient de l'esprit, pour lequel nous cherchons des changements extérieurs pour l'apaiser. Donc ça ne peut pas marcher, puisque nous cherchons une solution extérieure pour un problème entièrement intérieur. Ce que nous appelons bonheur ou satisfaction, souvent, c'est simplement quand ce mal-être intérieur est écarté temporairement de notre conscience du fait de voir une nouvelle scène, une nouvelle situation dans notre vie qui corresponde à nos images de bonheur. Mais à un moment, on n'est pas dupe, on voit que c'est une scène et l'âme, notre esprit décideur, le Christ en nous, cherche quelque chose bien plus nourrissant comme source de bonheur et de joie. Nous cherchons toujours au mauvais endroit, pensant avoir raison dans notre choix, et cela me faisait penser à cette petite image, cette petite blague sur l'homme qui cherche ses clés de voiture la nuit sur une lampadaire. Il y a un passant s'arrête et lui demande ce qu'il cherche. Et il explique, j'ai perdu mes clés, je suis en train de les chercher. Et l'autre personne continue à l'aider à le regarder sous le lampadaire. Et il dit, mais vous êtes sûr que vous les avez perdues ici? Il dit, non, non, je ne les ai pas perdues ici, je les ai perdues là-bas. Mais je n'ai que la lumière ici, je n'ai pas de lumière là-bas. Donc, on est un peu comme ça. Ça semble logique pour la personne qui cherche sous le lampadaire, puisqu'il y avait la lumière juste là. Et là, c'est la lumière de l'ego qui éclaire un certain endroit de notre vie. Va là-bas, tu seras heureux. Fais ceci, tu seras heureux. Cherche la compagnie de cette personne. Cherche la promotion. Cherche à travailler avec cet autre groupe. Il met sa lumière sur la situation. Or, Jésus, tu es en train de secouer sa tête. Il dit, ah, oui. Si seulement tu voudrais venir avec moi, tu prendrais ma lampe et je pourrais éclairer les zones d'ombre dans ton esprit, là où tu n'avais pas envie de regarder, et on trouvera la clé à ton bonheur et à ta paix intérieure. J'aime bien cette petite métaphore. Donc, continuons notre lecture de la leçon. On lit aussi dans notre premier paragraphe ce que tu fais est déterminé par ta perception de la situation et cette perception est fausse. Comment est-ce qu'on explique la fausseté de cette perception? Par quel droit est-ce qu'il dit que notre perception est fausse? Encore cela revient à l'histoire, au fait que nous nous sommes trompés sur notre identité et l'ego a deux buts. Et ces buts vont toujours guider nos perceptions vers la fausseté. Ces buts sont renforcer la séparation dans notre esprit pour que nous sentions un être séparé de l'esprit et séparé de l'amour de Dieu. Et deuxièmement, détourner notre attention du mal-être de la séparation dans notre esprit. Si nous pensons être le petit soi, le petit moi, nos perceptions seront guidées par l'ego et nos perceptions seront toujours fausses. Ce qui explique pourquoi Jésus se permet de dire que notre perception sera toujours fausse. Nous commençons tout juste maintenant à découvrir l'étendue des erreurs dans notre esprit. Nous commençons tout juste et nous avons encore un long chemin à parcourir. Nous ne sommes qu'à la leçon 24. Encore, on lit dans le premier paragraphe, il est inévitable donc que tu ne serves pas ton propre intérêt, notre vrai intérêt, c'est pourtant le seul but que tu aies dans toute situation correctement perçue. Quel pourrait être ce vrai intérêt, notre vrai propre intérêt? Jésus ne le dévoile pas dans cette leçon. Nous commençons à l'entreapercevoir dans la prochaine leçon. Et Kenneth Wapnick, dans son livre Voyage dans le livre d'exercice d'un cours en miracle, nous le dit très clairement, notre seul vrai intérêt dans chaque situation, c'est le pardon. C'est ce que nous allons développer encore ce soir. Voilà, au cas où vous vous posez cette question, il semble très clair Jésus semble très clair par rapport à cette question de notre propre intérêt, mais il ne lui dit pas ce que c'est. C'est le pardon. Le paragraphe 2, c'est tout sur une incitation à garder notre esprit grand ouvert et veut beaucoup d'humilité, on ne sait pas. Donc, c'est l'esprit du débutant ici qui l'encourage en nous. Continuons. Il parle dans le troisième paragraphe d'avoir beaucoup plus d'honnêteté. Kenneth, dans son livre, fait remarquer en passant que si il nous parle ainsi, c'est parce que Jésus sait que jusqu'ici, on n'a pas été aussi honnête que le niveau qui sera requis, qui sera demandé pour les leçons à suivre. Très bien. Aussi, dans le paragraphe 4, nous lisons que Jésus souhaite qu'on cherche les situations non résolues, ce qui veut dire que les situations où il y a une absence de paix. Et là, pour finir, on parle de l'exercice lui-même, où il demande de regarder si on n'a pas différents buts pour la même situation. Et cela peut être un petit peu confusant, ça peut mener à un peu de confusion. Et je voulais juste donner un genre de petit exemple en passant. Donc, il nous invite à regarder, donc, comme je dis, lire cette phrase dans la situation concernant ceci, cela. J'aimerais qu'il arrive cela et qu'il arrive ceci, en étant attentif tous les différents buts que nous avons pu établir pour le même projet, pour le même exercice. Et donc, si nous écoutons vraiment attentivement, nous pouvons effectivement en distinguer différents buts, parfois contradictoires. Par exemple, si je pourrais avoir envie de réussir un certain projet professionnellement pour avoir de la reconnaissance, mais en même temps, je n'aime pas que si les gens penseraient que je suis arrogant, et en plus, je ne veux pas non plus de responsabilités. Donc, j'ai deux objectifs un peu contradictoires. Je ne voudrais pas que l'hiérarchie me présente pour un autre poste avec plus de responsabilités ou ailleurs en dehors de mon équipe. Donc c'est juste pour dire que nous pouvons avoir multiples buts et objectifs. On ne sait pas ce que c'est vraiment notre propre intérêt. On n'a rien qui réunit notre perception. Voilà. Donc c'est tout ce qui est nécessaire pour une première lecture, une première pratique de cet exercice. C'est peut-être assez subtil, le vrai exercice de déterminer nos différents buts, parfois contradictoires, par rapport à la demande de Jésus ici. Mais on peut essayer, on peut passer un peu de temps dessus et on peut essayer de le deviner ou de distinguer ces différents buts tout en douceur. Donc, voilà, merci pour votre écoute de cette première pratique de la leçon 24. Maintenant, nous allons passer quelques minutes avec les étudiants avancés faire une lecture plus profonde de ces mêmes principes. Explorons maintenant, chers étudiants avancés, plus profondément cette idée de bonheur et d'intérêt personnel. Une question pour vous. Qu'est-ce qui est vraiment dans notre propre intérêt? Parlons plus profondément. Qu'est-ce qui nous ferait vraiment du bien? Pensez pour vous-même. Vous êtes déjà des étudiants chevronnés du cours. Qu'est-ce qui vous ferait vraiment du bien? essayez de d'ouvrir votre esprit ou garder votre esprit un petit peu plus ouvert par rapport à cette question. Parce que vous savez déjà que nous ne parlons pas de dons de ce monde, nous ne parlons pas de nouvelles situations ou de scènes de vie. Quelles sont les choses qui vous feraient vraiment plaisir, qui augmenterait vraiment votre sentiment de bonheur et de satisfaction. Nous pouvons, même avec notre expérience, néanmoins, être tentés de penser que ce qui nous pourrait apaiser ou ce qui pourrait diminuer notre mal-être, c'est un changement des scènes de notre vie. Plus de satisfaction, plus d'activités agréables, de reconnaissance, de plaisir, de satisfaction, les choses dont on a parlé déjà souvent. Il faut certainement pas s'empêcher, il faut certainement pas contraindre ces projets, et certainement pas ressentir de la culpabilité si ces choses sont toujours à l'ordre du jour dans nos projets. Nous voulons nous servir de ces projets pour basculer notre attention sur un autre plan. Nous pouvons nous poser cette question. Si tous ces projets-là sont destinés à m'aider à apaiser un certain mal-être intérieur, d'où vient ce mal-être intérieur? D'où vient ce manque de satisfaction, le manque de reconnaissance, le manque de sentiment de sécurité pour lequel j'essaie d'utiliser l'extérieur pour connaître un certain apaisement de cette condition? D'où est-ce que cela vient? Je veux un changement extérieur pour m'aider avec une condition intérieure, mais d'où vient cette condition intérieure? Nous lisons dans la septième section du chapitre 27, Autrefois, tu étais inconscient de ce qui devait être réellement la cause de tout ce que le monde paraissait t'imposer, que tu n'avais ni invité ni demandé. C'est-à-dire, ici, il parle des problèmes, des situations désagréables. Je relis autrefois. Tu étais inconscient de ce qui devait être réellement la cause de tout ce que le monde paraissait t'imposer, que tu n'avais ni invité ni demandé. En parlant des choses désagréables, je continue à lire. Tu étais sûr d'une seule chose. De toutes les nombreuses causes des malheurs dans notre vie, que tu percevais comme t'apportant douleur ou souffrance, ben voilà, c'est dit clairement, ta culpabilité ne faisait pas partie. Ici, il essaie de nous faire comprendre que le sentiment de culpabilité est la cause de ce que nous percevons comme apportant douleur et souffrance. Et cela doit commencer à nous travailler, à ouvrir notre esprit à la vraie cause de notre recherche, notre quête pour ces changements extérieurs. Lisons plus loin dans la leçon 128, le monde que je vois ne contient rien que je veuille. Le monde que tu vois n'a rien dont tu aies besoin à t'offrir. Rien que tu puisses utiliser d'aucune façon, ni quoi que ce soit qui serve à te donner de la joie. Crois cette pensée et tu es sauvé d'années de misère, d'innombrables déceptions et désespoir qui tournent en cendres amères de désespoir. Hyper clair. On ne peut pas avoir quelques phrases alignées qui parlent plus directement des déceptions que nous pouvons connaître dans ce monde et pourquoi ce monde, à la fin, ne marche pas pour nous. Si vous êtes une étudiante du cours, vous avez connu, comme moi, assez de déceptions avec le monde qui t'ont indiqué, qui t'ont mis sur la trace d'une certaine pouvoir de déception de ce monde, une certaine difficulté avec ce monde. Vous avez commencé à chercher parce que ce monde ne satisfaisait pas vos besoins les plus importants. Et nous y sommes toujours peut-être à chercher la satisfaction extérieure et donc nous avons besoin de ces rappels comme ici dans la leçon 128 que j'encourage à relire. Et nous lisons ici maintenant dans la leçon 182. Sur la solution, sur ce qu'il nous faut, sur ce qu'il nous fallait tout ce temps-là pour nous satisfaire. Je vous lis du douzième paragraphe, tu n'as pas perdu ton innocence. C'est après elle que tu languis. Voilà le désir de ton cœur. Quel est dans notre propre intérêt, c'est de retrouver cette innocence que nous pensons avoir perdue. Dans la leçon 134, en vérité, l'innocence est la seule chose qui soit. Donc voilà, je vais essayer de faire une mini-méditation avec vous sur cela. Avant cette méditation, par contre, une petite parenthèse sur notre résistance à demander. Jésus nous dit dans cette leçon, il n'est pas une situation qui se présente dans laquelle tu te rends compte du résultat qui te rendrait heureux. Par conséquent, tu n'as pas des guides pour agir de la manière appropriée, ni aucune façon de juger du résultat. Ce qu'il veut dire ici, directement ou indirectement, c'est que nous ne prenons pas le temps de lui demander à l'intérieur si ceci ou cela et dans notre vrai intérêt, dans notre propre intérêt, si la façon dont nous faisons ceci, cela est vraiment dans notre propre intérêt, aligné avec lui et ses principes et sa perception, ses façons de penser. Mais dites-moi, comme vous êtes en train de travailler sur votre projet de vacances, projet de promotion, projet de repas de famille, vous attendez grand événement, grande reconnaissance peut-être. Est-ce que vous allez réellement demander à Jésus ce qu'il en pense? Si c'est le bon projet pour votre propre intérêt ou la manière de le faire? Donc, même si nous sommes, aussi bien que nous soyons des étudiants avancés peut-être du cours, nous avons besoin de ces rappels pendant que nous travaillons sur nos projets, de demander à l'intérieur pour savoir ce que c'est le vrai but de cet exercice, le vrai but de ce projet. Ce n'est pas une question de changer de projet, mais de demander ce que c'est la vraie nature, ce qu'on est censé faire et apprendre avec tel ou tel projet. Très bien. Donc, je nous invite juste à fermer les yeux quelques instants pour faire une mini-méditation pour essayer d'ancrer ces idées dans notre esprit. Et je vais finir cette méditation par la lecture d'un passage, des quelques phrases de la leçon 93 que nous connaissons déjà très bien. Si vous avez envie juste de vous poser quelques instants avec moi et baisser le niveau d'activité de notre cerveau, je vous invite à fermer les yeux tranquillement et commencer à prendre conscience de votre intérieur. Le silence peut être frappant après tous ces mots, toutes ces idées, ces paroles. Prenons conscience de notre corps, de mouvements subtils de notre corps, assis où nous sommes, la détente de notre corps. Prenons conscience du doux mouvement de notre respiration. Prenons conscience d'un certain silence intérieur, l'espace entre les mots et entre les pensées. Et maintenant, commençons à penser tous les différents endroits où nous avons cherché le bonheur. Tous nos projets. Toutes nos activités. sachant intimement qu'il n'y a rien de mal à avoir choisi tel ou tel projet ou de travailler actuellement sur tel ou tel projet. La question n'est pas ce que nous faisons, mais avec qui nous le faisons. Et dans quel but nous le faisons. La belle invitation ici est de savoir que nous pouvons continuer à travailler sur nos projets de bonheur, tout en sachant que la seule chose qui nous rendrait véritablement heureux, c'est le souvenir de notre parfaite innocence et de celle de chaque personne. Et pour accomplir ce but-là, Jésus est certainement notre meilleur guide. Et il nous murmurait tous les jours, comme il nous a murmuré dans la leçon 93, que ton innocence est garantie par Dieu. Maintes et maintes fois, cela doit être répété jusqu'à ce que ce soit accepté. C'est vrai, ton innocence est garantie par Dieu. Rien ne peut la toucher ni changer ce que Dieu a créé éternel. Ton innocence est garantie par Dieu, et la lumière, la joie et la paix demeurent en toi. Eh bien, c'est la fin de la leçon 24. Et voici la leçon 25. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. C'est une leçon vraiment étonnante. On ne sait pas à quoi sert quoi que ce soit parce que nos buts ont été déterminés par une certaine partie de notre esprit, par l'ego, par le petit soi, par notre moi particulier. Sauf que ce petit soi-là ne peut pas connaître notre propre intérêt, nos vrais buts, nos vrais besoins. Donc nous risquons et nous allons mal nous servir de tout pour servir nos faux besoins. Nous ne savons véritablement pas à quoi sert quoi que ce soit quand nous regardons tout à travers les buts de l'ego. Il y a deux messages essentiels dans cette leçon. Nous ne savons pas à quoi servent les choses et situations dans nos vies, pas véritablement, et tout est pour notre propre intérêt, ce qui revient vers le thème de la leçon 24. C'est une leçon étonnante que nous allons essayer de comprendre ensemble. Très bien, nous lisons dans le premier paragraphe, première phrase de la leçon, le but et signification. Pour Kenneth Wapnick, c'était une phrase toute courte, mais aussi très puissante, qui citait très souvent. Nous lisons, il citait cet autre passage de la leçon, pardon, du chapitre 24 pour expliciter cette idée, où nous lisons le test de tout sur Terre est simplement ceci, à quoi cela sert-il? La réponse en fait ce que c'est pour toi. Cela, l'objet, n'a pas de signification de lui-même, mais tu peux lui donner réalité selon le but que tu sers. Il n'y a que deux buts, les buts de l'ego ou les buts de notre grand soi, du Jésus, de la présence du Saint-Esprit en nous. Quel but est-ce que nous sommes en train de servir? Posons-nous cette question souvent, voire très souvent, à quoi cela sert-il dans ma vie, dans mon plan de bonheur? En apprendre beaucoup sur nous-mêmes, sur notre vie, sur notre plan de bonheur, sur le fonctionnement de notre esprit, si nous commençons à nous poser cette simple cette question, à quoi cela sert-il, cette situation, cet objet, cette personne même, dans ma vie, sur mon plan de bonheur, sur mon plan d'éveil? Et ce que nous allons lire dans cette leçon, c'est tout, absolument tout, chaque objet, chaque situation, chaque personne est utile vu par les yeux de notre grand soi, du Christ en nous, de la présence de Jésus et du Saint-Esprit. Très bien. Souvenons-nous, comme je vous ai rappelé dans la leçon 24, l'ego en nous a deux buts. Rendre notre particularité puissante dans notre esprit et nous préoccuper avec le monde, nous divertir, satisfaire nos besoins personnels au point d'oublier de regarder au-dedans et d'oublier les présences de Jésus et du Saint-Esprit. Et notre question devrait donc être, quel est le but que j'ai donné à cette situation? Est-ce que c'est un but de l'ego pour satisfaire mes besoins personnels ou est-ce que c'est le but de retrouver les traces de l'amour de Dieu et l'innocence du Christ en moi? Ça, les questions clés. Et pour vous donner un petit exemple de comment ça se déroule véritablement dans une scène de la vie, nous pouvons penser à la mamie du coin. La mamie du coin, c'est celle qui adore faire les biscuits qu'elle donne gratuitement aux écoliers qui passent devant sa fenêtre à la sortie de l'école. Et tout le monde dit qu'est-ce qu'elle est généreuse, cette mamie. Elle a vraiment du bonheur dans le cœur et un cœur très généreux. Et un enseignant comme Kenneth dirait, ça dépend. Ouais, ce n'est pas en jugeant la personne, en regardant la personne et comment elle fait, qu'on peut savoir. Il faut regarder ce qui est dans son cœur, la raison pour laquelle elle le fait, à quoi sert cette activité pour elle. Si c'est pour la reconnaissance, pour les besoins de cet ego, d'avoir l'adoration et la vénération de ces petits écoliers, on peut être sûr que ce n'est pas pour les bonnes raisons, même si les écoliers sont heureux. Si elle fait de tout bon cœur que les enfants prennent les cookies ou non, si les enfants les crachent ou les adorent, si c'est pareil pour elle qu'elle les adore quand même, et elle aime bien faire les cookies, les biscuits secs quand même, alors peut-être c'est bien aligné avec son esprit juste. On peut toujours savoir quand la situation ou le résultat escompté change. Par exemple, si les petits écoliers décident qu'ils préfèrent les cookies du mamie du coin à l'autre bout de la route, ils délaissent la première mamie. Si la première mamie n'a plus d'écoliers à qui donner ses cookies, si ça le gêne d'une quelque façon que ce soit, alors on peut être sûr que quand même son ego y était un peu investi. Et si la mamie commence à traiter les petits écoliers d'ingrats et avoir une certaine rancœur après l'autre mamie, on peut être absolument sûr qu'elle n'était pas sur le bon plan. Et elle ferait bien de se poser la question à quoi cela me servait de fabriquer mes cookies et de donner aux écoliers. Même si nous sommes dans des activités soi-disant de toute apparence bénéfiques pour les autres, nous pouvons aussi nous poser les questions à quoi cela sert-il pour moi? Est-ce que c'est pour les buts de mon ego? Est-ce que c'est pour le but de trouver l'amour de Dieu, la présence de Dieu dans mon cœur et ma véritable innocence? Nous pouvons lire dans le premier paragraphe, toute chose est pour ton propre intérêt. Jésus ne précise pas ce que c'est ici et nous avons eu du mal à le croire quand il dit toute chose est pour ton propre intérêt. Comment est-ce que nous pouvons comprendre cela? Parce que ça, parfois, certaines choses sont particulièrement dures. Et nous devons comprendre ce que veut dire, c'est que dans le fond, chaque situation nous aide à trouver la cause de notre malheur. Chaque situation, même fluctuante, même décevante, peut nous aider à trouver la cause de notre malheur, mais à l'intérieur. Donc, chaque situation peut devenir une leçon très positive pour nous, même si l'extérieur change d'une façon négative. Nous pouvons apprendre pour nourrir notre chemin d'éveil, pour connaître nos erreurs d'esprit, pour identifier nos projections sur la situation, pour connaître nos attentes sur la situation. Et cela va nous aider à en lâcher prise et à dire, ben non, je ne veux plus me servir de la situation de cette façon. Je veux trouver la source du bonheur, de la paix de Dieu et de l'amour de Jésus dans mon cœur. Chaque situation nous donne une opportunité d'avancer sur notre chemin d'éveil. Chaque situation nous donne l'opportunité de reconnaître notre vrai besoin. Chaque situation nous donne l'opportunité de pardonner et de lâcher prise de la séparation et de l'ego dans notre esprit. Paragraphe 2 et 3 parlent de notre fausse identification. C'est une leçon radicale sur notre identité. C'est la première fois que Jésus parle d'une façon aussi explicite sur ce contraste entre le faux soi et le vrai soi, où il dit très explicitement, l'ego n'est pas toi. Il dit aussi, puisque tu n'as pas d'intérêt personnel. Bien sûr, on n'a pas d'intérêt personnel. Parce que c'était des intérêts de notre ego et nous ne sommes pas l'ego. Quand il dit l'ego n'est pas toi, cela veut dire nous sommes autre chose. C'est notre plus grande aspiration, c'est de savoir ce que c'est, cette autre chose. Donc, ces deux paragraphes sont une puissante ouverture de notre esprit, la première fois dans le livre d'exercice, à ce que c'est notre véritable identité. Et nous. On ne se force pas à essayer de tout intégrer et tout comprendre tout de suite. Nous ne sommes qu'à la leçon 24. Mais c'est un premier exposé de cette idée. Nous intégrons cette idée en passant, nous le réfléchissons, mais nous n'essayons pas de nous l'imposer comme la nouvelle structure de notre esprit tout de suite. Nous pouvons commencer, nous utilisons ces déclarations très fortes pour commencer à observer notre esprit et surtout les pensées dans notre esprit qui vont à l'encontre de ces idées. Là où nous pensons être avoir des intérêts personnels et nous utilisons ces paragraphes, ces idées très fortes pour nous interroger sur ces intérêts personnels et dire, mais peut-être ce sont simplement les intérêts de mon ego. Donc, essayons l'un des exercices mentionnés ici. Quand Jésus nous demande de regarder un objet basique comme un téléphone, il utilise l'exemple du téléphone, une voiture, un ordinateur. Je vous lis le passage du paragraphe 4. Au niveau les plus superficiels, tu reconnais ce qui est un but. Or, le but ne peut pas être compris à ces niveaux. Par exemple, tu comprends qu'un téléphone sert à parler à quelqu'un qui n'est pas physiquement dans ton entourage immédiat. Ce que tu ne comprends pas, c'est pourquoi tu veux le joindre. Or, c'est cela qui rend ton contact avec lui signifiant ou non. Je trouve ça très puissant pédagogiquement. De trouver cette profondeur dans ce simple questionnement, mais à quoi sert un téléphone? Bien sûr, c'est pour parler à quelqu'un qui n'est pas là physiquement, mais à quoi sert de lui parler? Et posons-nous cette question, pourquoi est-ce que vous voulez parler à cette personne, à quelqu'un, à qui que ce soit? Posons-nous cette question, pourquoi est-ce que je veux vraiment parler à quelqu'un? Et on va facilement trouver quelques réponses. Oh, ça dépend de la personne. Parfois, c'est pour organiser un rendez-vous, pour avancer un certain travail, c'est pour commander quelque chose, c'est pour régler un problème. Très bien. Mais pourquoi? Pourquoi régler quelque chose? Pourquoi organiser un événement? Pourquoi avancer le travail? Quel est le but? Quelle est mon attente? Quel est mon but derrière? Si on regarde bien, c'est toujours une question de satisfaction quelque part, une question de bonheur personnel ou une question de sécurité personnelle ou sécurité ou bonheur pour une autre personne. Mais il y a toujours, au fond, une question des buts personnels, soit de ma propre personne ou la personne ou une autre personne. Et parfois, en pensant au bonheur, au but de notre personne, je le fais à cause d'un besoin égoïste chez moi. Ouais. Parce que ça me fait plaisir, ça me donne de la reconnaissance de faire plaisir à cette autre personne. Ouais. Parfois, non. On a aussi quand même un esprit juste. On peut faire des choses sans avoir besoin d'une contrepartie, sans attente de contrepartie. Mais posez-vous cette question. Quel est votre vrai but en contactant les personnes ou en faisant quoi que ce soit? Encore, nous pouvons faire ce petit rappel des deux besoins de l'ego qui sont rendre notre particularité puissante dans notre esprit, satisfaire nos besoins personnels, nous préoccuper avec le monde, nous divertir au point d'oublier de regarder au-dedans et d'oublier de regarder vers la présence du Saint-Esprit et de Jésus. Kenneth nous dit très explicitement dans son livre, le seul but de chaque situation est le pardon. Donc, chaque situation devient une opportunité de voir nos erreurs d'esprit et de comment nous avons projeté ces erreurs d'esprit, que ce soit par nos besoins, nos attentes, sur ces autres personnes. Et nous pouvons savoir si nous avons projeté nos erreurs d'esprit sur cette autre personne avec qui nous avons besoin de parler ou envie de parler. Si la personne ne nous donne pas les réponses souhaitées, s'il y a une mauvaise réaction en nous, nous savons que nous avons intégré cette personne dans un scénario de satisfaction personnelle pour notre ego et nous ne sommes pas encore en train de vivre cette relation comme une relation sainte, c'est-à-dire sans attente, sans besoin personnel, pour aider cette autre personne à se souvenir aussi de l'innocence de Dieu dans son esprit. Enfin, on ne dit pas explicitement, bien sûr, mais on le dit par notre attitude avec cette autre personne. Donc voilà une première lecture une première pratique de cette leçon qui nous mène encore vers le pardon, pas explicitement, Jésus n'en parle pas dans cette leçon, mais chaque situation est pour notre propre bien parce que chaque situation peut servir les buts de notre grand soi, les buts de Jésus et du Saint-Esprit, ce qui est de nous aider à pardonner. C'est le processus de lâcher prise, de la séparation dans notre esprit et retrouver notre innocence et l'innocence de chacun. Voilà, très bien. Et maintenant, pour nos chers étudiants chevronnés d'un cours en miracle, dans cette leçon 25, Kenneth l'utilise beaucoup pour parler du pardon. Et nous pouvons nous poser cette question, comment est-ce possible que chaque situation peut servir le but du pardon? Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Nous apprenons que si chaque maintenant nous sommes en train d'apprendre que chaque situation sert les buts du pardon, mais comment est-ce possible? On n'a pas l'impression forcément que chaque leçon peut servir le but du pardon. Il faut comprendre ce que c'est la nature du pardon dans le langage du cours. C'est parce que le pardon est la façon dont nous identifions la séparation dans notre esprit. Et la séparation a une façon très subtile de s'immiscer dans notre esprit. Même, et peut-être particulièrement dans les situations qui vont bien, le besoin de pardon est là. Pourquoi? Parce que tant que les choses vont bien, notre mal-être de séparation est toujours là. Mais puisque nos besoins d'ego sont satisfaits, notre jugement et notre attaque et notre souffrance sont en suspens. Donc il faut commencer à voir chaque situation, même les situations où tout va bien, pour le potentiel de guérison de notre esprit. C'est-à-dire, nous pouvons imaginer qu'une telle ou telle situation qui va bien se dégrade. Il y a une réduction de la capacité de cette situation, ce scénario, ou même les personnes impliquées, de satisfaire nos besoins. Il y a un changement. Et nous sommes déçus. Nous commençons à aller sur le terrain de la déception, de la frustration, même de la contrariété. Soudain, nous pouvons peut-être commencer à voir que le mal-être de la séparation est toujours présent. Et donc, cette situation devient une opportunité de voir nos projections, l'activité de notre ego qui est toujours présent, voir comment nous pouvons lâcher prise des personnes impliquées dans cette situation, de la situation elle-même, et même des objets, si c'est une voiture, un ordinateur, un outil, etc. Comment nous pouvons enlever nos projections, nos attentes sur ces objets, ces situations, ces personnes, pour les libérer et nous libérer de notre ego. Ça, c'est une lecture plus profonde, c'est une pratique beaucoup plus profonde, une application plus profonde de cette leçon pour les étudiants qui l'ont déjà fait une première fois. Et je vous invite à réfléchir à cela pour vous. Prenez une condition dans votre vie qui vous rend heureux. Ça peut être votre maison, ça peut être votre santé, ça peut être une situation financière, des situations qui vont bien pour vous, des situations que vous avez intégrées dans votre vie puisque cela vous fait du bien. Et je vous invite maintenant à imaginer que cette situation perd de son efficacité ou sa capacité de vous rendre heureux de la même façon. Soit la situation change, la maison commence à présenter des fissures à cause de la sécheresse, ou l'inflation commence à grignoter, à abîmer votre situation financière, ou les personnes qui vous ont apporté beaucoup d'affection commencent à être plus distantes. Toutes ces choses peuvent arriver. Qu'est-ce que vous ressentez? Posez-vous ces questions vraiment importantes. C'est ainsi que nous allons commencer à utiliser chaque situation pour notre propre intérêt. Le vrai intérêt, ce n'était pas de nous rendre heureux. C'était de nous présenter des opportunités de pardon et de libération de la séparation, de libération de la prison de cette vie, de cette dimension de l'esprit. Pensons à ces situations qui ne nous présentent pas de difficultés pour l'instant, mais où notre jugement et notre mal-être est juste en suspens. Et donc, qu'est-ce que vous ressentez? Vous pouvez mettre un commentaire dans le fil de chat si vous voulez. Le cours et Kenneth vont bien plus loin quand ils disent que notre souffrance est toujours une accusation déguisée. Quelque part, notre souffrance, notre mal-être est toujours en train de dire, si vous n'aviez pas changé, si, même en parlant d'un objet, si tu m'avais pas fait ça, si tu t'es pas cassé sur moi, oui, regarde ce que tu m'as fait, en parlant à ma voiture, à mon ordinateur. Nous sommes toujours, notre souffrance est toujours une accusation. Donc, même notre moindre souffrance, comme je vous ai lu déjà plusieurs fois, la moindre pulsion d'irritation, le moindre point d'irritation, je pense que c'est, est une aventure dans le monde de l'ego. Donc, et écarte la vraie bonté et bonheur de l'esprit. Donc, c'est une invitation, cette leçon pour les étudiants avancés est vraiment une invitation à ouvrir notre esprit à un genre d'application universelle du pardon. Comment nous servir de chaque situation pour nous faire du bien, pour lâcher prise un peu plus de notre ego. Lâcher prise de nos exigences, de nos attentes, de nos besoins, qui sont une façon d'emprisonner les choses dans notre jugement, comme si on les garde en place par nos jugements. Les gens savent autour de nous ce qu'ils peuvent faire, se permettre de faire, et ceux qui se peuvent pas se permettre de faire. Sinon, ils vont encaisser notre irritation, notre contrariété. Ils vont nous froisser. On les garde dans un genre de prison. Ce n'est pas l'amour inconditionnel, comme on dit. Donc, voilà l'exercice pour les étudiants expérimentés. Et maintenant, pour finir cette séance, je nous invite à fermer les yeux pour faire une petite méditation. Et nous allons terminer cette méditation par une petite lecture des quelques phrases de la leçon 220. Il n'est pas de paix que la paix de Dieu. Voilà, très bien. Donc, terminons cette séance tout tranquillement en fermant les yeux à nouveau. Et en nous laissant déguster quelques instants de silence et de bonheur intérieur, en fermant les yeux et en retrouvant notre calme intérieur. Ressentant à nouveau la pleine présence de notre corps assis tranquillement ici, rien ne bouge maintenant, juste le léger et doux mouvement de notre respiration, rien ne bouge dans notre corps. Rien ne bouge dans notre esprit. Nous ouvrons à nouveau le passage vers notre sanctuaire silencieux où nous pouvons nous asseoir tranquillement à côté de Jésus. Ici, dans cet endroit de force et de sagesse, nous pouvons réfléchir à notre comportement habituel, notre façon de nous servir des choses et des situations dans notre vie. Maintenant, au-dessus de notre ego, nous pouvons l'observer. Et voir comment effectivement il essaye de tirer profit de chaque situation. Nous avons pensé qu'en suivant ses conseils, cela nous rendrait heureux et nous donnerait la paix. Mais nous nous sommes simplement trompés. Il n'y a qu'une source de bonheur et de paix. Et nous pouvons maintenant apprendre à voir nos erreurs d'esprit dans chaque situation. Et inviter Jésus à nous aider à les corriger. Chaque situation peut nous, pour nous, deviendra ainsi une voie d'apprendre sur la présence de l'amour de Dieu dans chaque situation. Réfléchissons à une situation spécifique où nous nous étions investis Notre seul but pour cette situation maintenant peut être de trouver les traces de l'amour de Dieu. Pensons à une autre situation. Et disons-nous de la même façon, et dans cette situation aussi, mon seul but peut être de retrouver les traces de l'amour de Dieu dans mon esprit et dans celui de chacun. Et voici la leçon 220. Il n'est pas de paix que la paix de Dieu. Ne me laisse pas m'écarter de la voie de la paix, car je suis perdu sur d'autres routes que celle-là. Mais laisse-moi suivre celui qui me conduit chez moi, et la paix est aussi certaine que l'amour de Dieu. Il n'est pas de paix que la paix de Dieu. Très bien. Si vous avez envie de rester dans cette méditation, vous pouvez baisser le son sur votre appareil ou quitter la séance. Nous entrons maintenant dans la deuxième partie de cette séance, la partie réservée aux questions-réponses et des échanges entre nous. Si vous souhaitez participer, ça sera avec un grand plaisir. Je vous remercie beaucoup pour votre participation ce soir. Un petit mot sur notre fonctionnement. Nous vous offrons ces séances et ces enseignements avec grand plaisir et nous sommes ravis si vous en profitez pleinement et si ces enseignements enrichissent votre étude et votre pratique d'un cours miracle. Si de votre côté, vous ressentez de l'inspiration, de la motivation pour contribuer à ces séances, vous pouvez le faire en allant sur notre site bernardgroom.com où vous trouverez le bouton contribuer. Merci d'avance. Et maintenant, tout est ouvert. J'ai dit ça, il faut que je fasse un petit changement. En principe, demandez, vous pouvez ouvrir vos micros maintenant. Encore, ils ont changé le nom, le fonctionnement de certains boutons. Lire le son de participation. Outil de haute. Voilà, très bien. Donc, normalement, si vous ouvrez votre micro, on doit pouvoir se parler. Alors, merci Véronique, merci Catherine et plusieurs personnes qui sont déjà parties. Merci d'être venues. Au plaisir de vous voir la semaine prochaine. Si vous devez nous quitter maintenant. Donc voilà pour celles et ceux qui sont ici pour le pour la prochaine fois, peut-être. Maintenant, vous pouvez poser vos questions dans le fil de chat ou il suffit aussi juste simplement d'ouvrir votre micro et on peut se parler en live. Et si jamais vous n'avez pas envie que votre question apparaisse ou cette conversation avec moi apparaisse sur la vidéo, il suffit de me le dire et je ferai en sorte que cela n'apparaisse pas. Il n'y a pas de souci. Donc, on peut aussi avoir une conversation plus intime, plus où vous parlez des détails d'une situation qui vous préoccupe, si vous voulez. Donc, je vais me servir un peu d'eau en attendant, voir si c'est Véronique qui a dit je reste sans voix. J'espère que vous n'êtes pas tous et toutes sans voix, sinon on sera très calme. Ah, Monique.
Oui, bonsoir. Il y a
Bonsoir.
longtemps que je ne suis pas venue, donc c'est un plaisir de vous retrouver. Et ce qui m'est venu ce soir, c'est que même quand on a quelques moments, on va dire, d'état de grâce, où on s'oublie suffisamment pour vivre les choses en présence, dans la présence, ça arrive quand même un petit peu, eh bien, une fois qu'on est sorti de cet état, parce que c'est pas éternel, eh bien, la personnalité est bien contente de manifester sa satisfaction. Voilà. Et donc, bon, parfois on appelle ça de l'ego spirituel. Je trouve que c'est pas très joli, mais ça veut dire que quand même, la personnalité est quand même satisfaite, de l'expérience. Voilà.
Quoi faire? C'est ça la question, peut-être. Comment faire?
Oui, tu peux bien sûr faire tes commentaires. Je voulais juste te
Ouais.
dire que même à ce niveau-là, de
Mmh.
temps en temps, quand on a la chance que ça vienne, eh ben,
Mais
c'est pas gagné, quoi.
non, tant qu'on a un esprit, encore une soupçon d'esprit séparé, cet esprit séparé va chercher à se manifester. La meilleure façon, c'est de se vanter, c'est de dire, ah ben, je ne suis pas si mauvais que ça, je ne suis pas le dernier de la classe, et puis il y a plein de différentes choses. L'essentiel, c'est de ne pas accorder trop d'importance à cela. Il fait juste ce qu'il est censé faire. Trouver une façon de manifester sa voix particulière. Si nous pouvons simplement l'observer et être dans le non-jugement par rapport à nous-mêmes, savoir ce que c'est. Savoir ce que c'est effectivement, c'est l'ego, c'est la voie de la séparation. C'est aussi une façon moyennement déguisée de vouloir faire une différence entre nous et les autres qui n'ont pas le même niveau que nous. C'est-à-dire, c'est pas gentil, le fond n'est pas gentil, le fond de l'ego n'est jamais gentil de toute façon. Donc, il faut reconnaître la méchanceté, mais pas pour nous culpabiliser. Pour dire, waouh, l'ego est quand même méchant, même quand j'ai une belle expérience d'amour, il arrive à s'en servir pour assassiner les autres. Et donc, on se sert de la conscience de cette méchanceté pour nous motiver et pour dire, ben voilà, je ne vais pas lui donner beaucoup d'importance cette fois-ci, je ne vais certainement pas vouloir avoir le même genre de réaction de la prochaine fois. La prochaine fois que j'ai une belle expérience de révélation, et le coup en parle, il dit, ça arrive, une magnifique expérience de révélation. Il dit que cela ne dure pas, parce qu'on n'est pas dans une conscience où ça peut durer, ce n'est pas le but. Le but ici, c'est de transformer tous les recoins d'ombre dans notre esprit. Et comme Kenneth disait, c'est des panneaux de direction sur notre route. Qui disent, tu es sur la bonne route, tu es sur la bonne route, continue. Et je l'ai entendu aussi parler d'une magnifique métaphore quand on a ces genres d'expériences de révélation. Ça m'a fait penser à ça. Il disait que ces expériences les plus puissantes deviennent l'autel de notre Église, l'autel autour duquel on bâtit l'Église de notre vie. Je trouvais ça magnifique. Donc, on prend ce souvenir, cette expérience absolument extraordinaire de beauté et de bonté transcendante, et on le met là, au centre de notre esprit. Et tout le reste de notre vie commence à circuler autour de cette idée, de cette puissante lumière qui commence à se faire ressentir dans tout ce que nous faisons. Donc, ce n'est plus notre ego, notre personnalité qui est au centre de notre vie. C'est le souvenir de cette bonté et cette beauté que nous avons vécue, qui devient qui est la lumière qui éclaire notre esprit et qui imprègne et qui irradie tout ce que nous faisons par la suite. Je trouvais ça magnifique. Donc, c'est la promesse de ces instants de révélation. Nous ne devons pas être surpris par les réactions de l'ego, donc il faut certainement pas en faire trop cas. On va en avoir encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'a pas fini de dire son dernier mot, mais son dernier mot devient de plus en plus silencieux, comme les petits couinements d'une souris, là où avant c'était les rugissements d'un lion. Voilà, le cours parle de ça aussi. C'est une souris qui couine, qui essaie de rugir comme rugir comme un lion. Mais bravo, Monique, tu l'as vu, c'est excellent. C'est aussi
Oui, mais
très.
en même temps, par rapport à tout à l'heure, quand tu parlais d'une bonne expérience qui cache quand même éventuellement, comment dire, un aspect qui nous sépare encore quand même. Parce qu'on peut avoir aussi une attente que cela revienne, parce que on est satisfait, donc on peut quand même être dans l'attente. Et donc ça, bon bah ça, on sait que ça marche pas, mais ça fait rien. Ça vient quand même de temps en temps. Et donc même les meilleures situations peuvent, comment dire, être reprises justement par notre personnalité qui voudrait que ça se refa que ça revienne, etc. Et alors bien sûr, sans se culpabiliser, mais bon, c'est des phénomènes où on jongle en fait entre les. Voilà. Moi, j'essaye autant que faire se peut comment dire, pas suivant ce que je fais, mais si je fais de la peinture, par exemple, eh bien, je tente d'être l'instrument du créateur en moi pour. Voilà. Et donc, ça donne une. D'abord, il faut du silence intérieur pour que ça se fasse, parce que sinon l'ego prend le devant de la scène. Mais bon, voilà, c'est tout ça pour dire que bon, je te remercie pour ce que tu as dit ce soir par rapport aussi justement aux bonnes expériences qui peuvent être, comment dire, comme les mauvaises expériences, comme les difficultés, et peuvent être de source d'un enseignement justement pour voir où on n'est pas aligné sur l'enseignement du Christ finalement.
Ok, très très bien. Si certaines choses t'ont paru claires, c'est excellent, c'est très bien. Merci pour ton intervention sur sur la question de la révélation. C'est important et il y a beaucoup de récupération de la part de notre ego. Effectivement, et Monique, si tu as connu ça, c'est déjà excellent, tu l'as vu. Franchement, c'est fabuleux parce que la plupart du temps, c'est la dernière chose qu'on a envie de voir, surtout quand on vient d'avoir une belle expérience de l'amour divin en quelque sorte. C'est de voir ce que le contre-attaque ou le repli dans l'ego. Donc, si on le voit, on a déjà fait plus que la moitié du travail. C'est formidable. Après, il ne faut pas qu'on aille trop loin à se critiquer, à dire que c'est vraiment pas bien. L'amour que nous cherchons, la lumière que nous avons vécue est toujours totalement présente et c'est la seule réalité. Moi, je dirais que si nous nous replions dans l'ego, c'est pas peur. C'est pas peur de savoir qu'il n'y a rien d'autre que cette lumière. Qu'absolument tout le reste est fausseté, est faux, est illusion, est hallucination, est une dimension irréelle. Nous ne sommes pas encore assez avancés pour reconnaître, pour ne plus donner aucune valeur à ce qui semble ne pas être cette lumière. Oui. Mais nous sommes sur le chemin, nous sommes sur le bon chemin. Et ces petits instants de lumière, de révélation, vont continuer à nous guider dans la bonne direction. Je vois que Loïc a aussi, tu as ouvert ton micro.
Ouais, bonsoir à tous, bonsoir Bernard.
Merci.
Je te remercie pour cette séance. Je trouve que c'est vraiment ces leçons, c'est assez décapant. Dans le sens, moi, la question que je pourrais avoir, c'est tant décapant que ça peut amener un peu, pour moi, une certaine confusion. Du moins, toute ma vie a été construite autour de l'ego. Et ce qu'on pose là, c'est vraiment radical, c'est assez radical. Et ça peut être parfois assez angoissant. Et je trouve que c'est pas évident de se tenir au bord de l'angoisse pour sentir à quel point la vie est absurde, pour ne pas être dans le déni, sans tomber totalement dans l'angoisse. C'est pas évident cet équilibre à trouver entre sentir la partie angoissante face à ce qui est dit, hein, dans le. C'est quand même quand, pour moi en tout cas, ce que je vis, c'est quand je me dis tous mes repères sont basés sur l'ego, alors que ce qui est dit dans le cours, tu vois, c'est quand même assez radical. Et je trouve que ça me permet, pour ma part, de sentir à quel point c'est absurde et à quel point ça peut être angoissant. Et ma question, du coup, pour revenir, c'est comment arriver à sentir à la fois l'angoisse, le dégoût. C'est un des mots un peu durs, mais qui est net, emploie ces mots-là, en plus, pour s'appuyer, pour aller vers le désir d'autre chose. Mais comment être là, sur le bord de ce ravin-là, tout en sentant qu'il y a autre chose. Je ne sais pas comment, si tu veux, je ne sais pas comment, tu vois, comment trouver les ressources pour rester là sans être. Enfin, voilà, je ne sais pas si c'est clair.
Ah si, si, absolument, totalement.
Okay.
Très, très clair. Absolument. Et tout d'abord, si jamais vous, je parle pas juste à Loïc, à qui que ce soit qui écoute cela, vous commencez à ressentir vraiment beaucoup d'angoisse et beaucoup de difficultés ou de dérangements avec ce cours, ce que moi j'ai connu à plein de différents moments. Il faut tout simplement arrêter le cours pour un certain temps, sans vergogne, vraiment sans difficulté, de le poser, de mettre de côté, d'aller vous divertir, aller faire autre chose, aller faire du sport, aller vous faire plaisir, aller au ciné, regarder une série, peu importe. L'idée n'est pas de faire ce cours au point de se plonger dans les angoisses ou les problèmes. Pour moi, c'était moins l'angoisse, c'était le sentiment de culpabilité absolument terrible. Et j'avais vraiment compris. Je prenais ma petite voiture, j'avais un petit Renault 11 à l'époque, si ça vous parle. Et je faisais les 30 km jusqu'à la prochaine ville où je m'en fichais du film qu'il y avait à l'écran. Et j'allais regarder quelque chose. Ouais. Et c'était viscéral. Et j'avais besoin de sortir, d'être dans la voiture, d'être ailleurs. Et ce qui est curieux, c'est le simple fait de bouger, d'être dans la voiture, d'aller quelque part, m'apaisait déjà énormément. Ça m'envoyait un signal qui disait, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Ouais. Et tout ce qu'on peut faire pour savoir, ce n'est pas si important. La peur, curieusement, l'angoisse aussi, curieusement, est juste une autre défense. La peur n'est pas réelle à la fin, parce qu'il n'y a rien à craindre. Il n'y a que douceur. Et donc, plus on fait ce cours, la raison pour laquelle la peur vient, c'est simplement peur de la douceur, ce qui est ridicule. C'est pour ça que tout ce qu'on peut faire pour se donner un message de douceur, c'est-à-dire d'aller voir un ami, d'aller appeler quelqu'un, d'aller, peu importe, écouter une musique même qui bouge beaucoup, qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, c'est un acte de douceur. Ouais. L'amour veut simplement qu'on se détende, c'est tout. C'est un conseil.
Mais du coup, ouais, pardon.
J'en ai un autre.
Vas-y, je t'en prie.
Et tu m'en as entendu parler déjà une fois. C'est la méditation de pleine conscience. Il y a une technique, je les ai intégrées peu à peu dans cette méthode. Vous m'avez entendu parler des fois d'être présent et de ressentir, de se laisser ressentir l'émotion en ayant confiance qu'on peut le traverser, en essayant d'être avec l'émotion, mais d'une façon différente, de ne pas le mentaliser, de ne pas réfléchir à la peur, mais de donner des caractéristiques, d'explorer avec curiosité ce phénomène d'angoisse, comme si vous êtes un explorateur en train de le regarder pour la première fois, et vous donner une température, une couleur, une température, une couleur, une taille, et la texture de la surface et la distance de vous. Et cela change radicalement notre rapport à la peur et à l'angoisse. C'est ça qui est essentiel. C'est ce que nous faisons avec la peur et l'angoisse. Parce que elles ne sont rien à la fin. C'est juste des messages dans l'esprit. C'est des pulsions dans l'esprit ou même dans le cerveau. Si nous changeons notre rapport, nous sommes déjà dans la douceur. Nous sommes plus déjà plus en train de croire au message de la peur et de l'angoisse. Ça te dit quelque chose, ces
C'est
méditations?
très clair. La deuxième outil est pour moi
Très
ce
parlant.
qui, ce qui me, ce qui va me soutenir le plus. Je l'avais oublié, hein.
Oui.
Mais
C'est super
parce
puissant.
que je veux pas non plus être dans le déni, tu vois.
Non, mais je sais, je te connais,
Donc
tu.
le deuxième outil, je trouve c'est le
Donc,
plus en tout cas
les
c'est celui qui me parle le plus pour moi.
4 étapes. Reconnaître, accepter, ce qui veut dire ne plus s'opposer, mais ne plus juger. Explorer, donc investiguer, ça c'est le in, c'est R-A-I-N, rain en anglais. Donc en français, on est S-O-I-N, on a essayé une fois de transposer en français. Et donc, reconnaître, observer, mais souvent ça c'est pas difficile. Accepter, ce que veut dire arrêter de le juger, de s'opposer. Je ne veux pas que ça soit ici, ben mon coco c'est là. Donc gère. Après c'est investiguer avec autant de curiosité et de bienveillance que tu peux. Vraiment, en cherchant plein de différentes dimensions. Où est-ce que ça se manifeste dans ton corps? Où est-ce que tu le ressens dans ton corps? Et la quatrième étape c'est nourrir. Comment est-ce que tu peux te nourrir, prendre soin de toi? Comment est-ce que tu peux détendre ces parties de ton corps qui ressentent cette angoisse? Moi, c'était toujours là. Ouais. Et donc, je pouvais mettre ma main autour de mon cou pour essayer de me détendre. Ouais. Mettre une main sur le cœur, prendre soin de toi comme on imagine un Jésus le ferait. Une main sur notre propre épaule. Tout ce qu'on peut faire pour se donner ce signal d'apaisement et de douceur, de tendresse et de soin est extrêmement guérisseur et bénéfique. Ça te parle?
Ouais, merci beaucoup. C'est
Avec
très clair. Ça aide à traverser.
grand plaisir,
Ça
avec grand
soutient.
plaisir, Loïc. Merci. Ça nous a permis de refaire un petit tour de ces principes. Très bien. On est 21h28. Je ne sais pas s'il y a une autre petite remarque ou une petite question. Sinon, on peut tranquillement penser, terminer la séance pour ce soir. Je pense que ça nous a donné un peu de nourriture pour une semaine. Très bien. Bon, bah écoutez, je vous invite à ouvrir vos micros. C'est la façon dont nous terminons ces séances. On ouvre tous nos micros pour dire un petit au revoir, juste pour entendre nos voix, parce que nous sommes encore assez nombreux, ici, et c'est très sympa de savoir que vous avez des voix, que nous sommes une famille. Et voilà, ça permet à chacun vraiment de pouvoir s'exprimer et voir, il n'y a rien à craindre. Ouvrez son micro et dire bonjour. Donc, merci beaucoup. Au grand plaisir de vous voir la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Bonne semaine à tout le monde. Au
Au
revoir.
revoir.
Bonne
Merci.
semaine.
Au revoir.
Bonne
Au revoir.
semaine.
Au revoir sur
À
5,
vendredi.
5,
Salut. Au
4,
revoir. Bye bye.
2,
un.
Bye
Merci
bye. Au
beaucoup. Bonne
revoir.
semaine.
Bye
Bye
bye.
bye. Très
Au
bonne
revoir.
semaine. Au revoir. Merci.
Merci, merci.
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 Au revoir. Merci.